Air de Vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.
Bonjour à tous, bienvenue sur Un air de vie, votre émission locale qui traite de l'environnement, toujours avec votre trio les JFK. Salut Jérôme.
Salut Kevin.
Salut Fred.
Salut Kevin.
Alors aujourd'hui on va faire comme d'habitude un petit tour d'actualité et après nous traiterons d'un sujet propre à la ville d'Évreux, la déviation.
Effectivement.
Mais avant tout, un petit peu d'actu, Jérôme.
Alors moi j'ai retenu plusieurs points dans l'actualité. On va les dérouler. Le premier, c'est la société Lubrizol. Ça parle de la société Lubrizol, ça vous dit quelque chose, messieurs?
Lubrizol.
Je refais tout en cœur, c'est merveilleux.
J'ai deux modèles de rock.
Si je fais un groupe de rock, je recommande.
Voilà.
Alors, Lubrizol, rappelez-vous.
Mais Lubrizol, mais qu'est-ce que c'est que ça, Lubrizol?
Lubrizol, c'est la société qui a eu des flatulences olfactives en janvier.
Du côté de Rouen.
Voilà, qui a lâché un gaz particulièrement
odorant. Heureusement qu'il n'y a pas eu de brouille.
Et donc, il s'est ressenti jusqu'en Angleterre. Eh bien, la société vient d'être jugée au tribunal de Rouen et donc vient d'être condamnée, alors plus particulièrement le holding qui en est propriétaire. Et le propriétaire de cette holding, c'est un milliardaire qui s'appelle Warren Buffett. J'espère qu'il ne fera pas un procès à...
Il n'a pas un nom français, lui.
Le principe actif pour diffamation. Enfin, voilà, il vient d'être condamné, ce pauvre milliardaire, à 4000 euros. Pour nuisance olfactive... Pour nuisance olfactive, c'est le grief qui a été retenu. Et voilà,
oui, parce que c'était la fameuse affaire donc, du produit, qui était d'ailleurs le produit utilisé pour les boules puantes, dans les farces à trappe.
Exactement, et il y a une usine à Rouen qui fabrique encore cela.
Mais est-ce que tu as une idée à quoi ça servait réellement, ce produit? Enfin, c'était quoi
Alors en fait, son petit nom scientifique à ce gaz, c'est le méthanéthiol. Bon, moi, j'ai pas fait science à l'école, donc je peux pas vous dire. Parce que, bon, il y a des. Je te lis, Fred, non?
Moi, je te fais confiance.
Bon, ok. Donc, en fait, bizarrement, ce gaz, dans un premier temps, il a été classé comme toxique. Et tout de suite après avoir été libéré dans l'atmosphère rouennaise, qui ne demandait pas mieux. Déjà, c'est encombré par certaines
odeurs. On peut dire déjà que ça pue un peu à Rouen. Hein.
Ouais, un petit peu. Eh bien, il y a eu un certain nombre de communiqués, notamment de la société et puis des autorités de l'État, pour dire qu'il n'y avait aucun danger. Bon, effectivement, comme toute chose qui pue, ça donne quand même de la migraine et certaines nausées.
Voilà. À haute dose. Hein.
À haute dose. Mais ça n'a pas été retenu, puisqu'il n'y a pas de risque avéré pour la santé. Encore une fois, il y a uniquement la nuisance olfactive qui a été retenue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le site, l'usine qui fabrique ce gaz, il est classé Seveso. Alors, Seveso, c'est le stade le plus élevé dans les contraintes, dans la surveillance, lorsqu'il y a un risque avéré de pollution. Il y a une échelle dans ce qu'on appelle les installations classées pour la protection de l'environnement.
Donc, Seveso. Ils sont classés avec des normes les plus strictes possibles.
Voilà,
et c'est là où
ils sont surveillés, etc. Et malgré tout, il y a un petit peu de gaz qui est parti. Voilà. Donc, effectivement, malgré tout, ça remet en cause un certain nombre, ça remet en cause l'information qu'on peut avoir, la surveillance, etc.
Et puis même, c'est peut-être simplement la qualité et le suivi de ces normes, de ce Seveso, dont tu viens de parler, là.
Voilà. Alors, bien sûr, il y a des groupes politiques, on va pas les nommer, mais qui s'en sont inquiétés. Hein, ça commence par un E, ça finit par un V. Et donc, ils disent qu'on peut pas négliger la fragilité, l'extrême fragilité de certains sites industriels en zone urbaine. Effectivement, ça remet à l'ordre du jour tous ces ces sites industriels dans des zones très urbanisées. On rappelle ce qui s'est passé à Toulouse, etc.
Et oui, en plus, juste l'intérêt, enfin, ce qui est intéressant pour ce gaz-là, c'est qu'on le sent. Il y a beaucoup finalement de gaz qu'on ne sent pas, et c'est finalement des choses qui sont vraiment dangereuses parce que là, on n'en a pas du tout conscience de les respirer. À la limite, un gaz comme celui-ci qui sent mauvais, tout le monde en a conscience et tout le monde va prendre les mesures nécessaires à se protéger.
C'est pas grave,
quoi. En sachant qu'en plus, il est peut-être pas forcément nocif. Après, le danger, c'est tous ces gaz qu'on respire sans jamais s'en sentir.
Il faudra qu'on se renseigne si à Rouen, il y a une usine de fabrication de gaz hilarant.
Ça serait marrant. Mais j'ai compris, Fred, où tu voulais en venir. En fait, à partir du moment là, en fait, c'est parce qu'il est tellement odorant, ce gaz-là, qu'on a pu repérer cette fuite. Alors pourtant, il y avait ce label certifié, voilà, de haute qualité au niveau du process. Alors qu'en fait, il y a plein de têtes d'autres gaz qui sont inodores et ils ont les mêmes problèmes.
Voilà, il y a les problèmes de pollution au gaz actuellement. Sur la pollution au gaz, on a les chiffres des morts tous les ans liés à la pollution atmosphérique. Et c'est les gaz, pour la plupart, qu'on sent pas, sauf si on met son nez à la sortie de son pot d'échappement, chose que je souhaite, passe pas trop souvent.
Ouais.
Enfin, reste malgré tout une certaine polémique sur la classification de ce gaz, puisque selon l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité, l'INRS le considère comme toxique par inhalation et dangereux pour l'environnement. Alors que tous les communiqués que l'on a pu entendre dans la journée ou le lendemain considéraient que ce gaz n'était ni toxique ni dangereux.
Après, il y a sans doute un problème de dose ou de...
Évidemment, voilà. Ça c'est of course.
Voilà, effectivement. Donc voilà pour les nuisances olfactives et les milliardaires. Kevin, t'avais repéré quelque chose aussi dans l'actualité, me semble-t-il.
Exactement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une petite histoire à propos des chevreuils.
Ah non.
Les chevreuils...
Je les connais qu'à Noël.
T'en connais quelques-uns. Je les connais d'une certaine manière. Eh bien, en fait, voilà, la petite histoire. Donc, comme on a souvent déjà parlé dans notre émission, on a parlé donc de climat, de réchauffement climatique. Et donc, par-delà cette histoire, on parle aussi d'adaptation, du règne animal. Et on a constaté que diverses espèces, par exemple comme les moineaux, qui arrivent à se nicher même près dans les villes, près de même à New York, dans les gratte-ciels, etc., un peu partout, tout simplement dans le monde. D'autres espèces ont beaucoup plus de difficultés. Alors là, on ne parle pas donc de l'ours polaire avec sa banquise qui fond, etc. Là, on parle du chevreuil, donc vraiment l'animal que vous pouvez croiser, percuter dans les routes à côté de chez nous. Alors, Kézako, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chevreuil, contrairement à d'autres espèces, a du mal à s'adapter à cause de ce réchauffement climatique? Et qu'est-ce que ce réchauffement climatique a induit? Alors, voici l'histoire. En fait, ça commence le 1er avril dans la revue PLOS Biologie. Des résultats d'une expérience qui a été très longue, parce qu'elle a été commencée en 1985 et s'est terminée en 2011.
Elle a été faite par Serralini?
Elle a été faite par Serralini, justement. Bah déjà, tu vois la durée de l'étude, elle a l'air un peu plus sérieuse. Elle a été faite donc par un laboratoire biométrie et de biologie évolutive du CNRS et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc, en gros, ils ont examiné une population donc de chevreuils adultes, en un peu plus de 200. Et dans la forêt de Trois-Fontaines en Champagne, donc la fameuse région qui nous fait ce délice à bulles. Tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire cette étude? Ils ont capturé les nouveau-nés, en fait, voilà, les fans nouveau-nés.
Ils ont capturé au fusil?
En fait, ils ont capturé, bagué, tout ça pour pouvoir les étudier. Et en fait, suite à ça, après, ils ont suivi leur évolution. Et petit à petit, après, ils ont vérifié en fait, le taux de mortalité de ces fans. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, ils ont remarqué une explosion de la mortalité des chevreuils.
Après l'ouverture de la chasse?
Alors, il n'y a pas que la chasse. En fait, il faut un petit peu modérer, parce que ça paraît un peu des propos, on va dire, catastrophes, comme ça, alors que la population du chevreuil continue d'augmenter. D'accord, ça, faut le comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la mortalité des chevreuils? En fait, par le réchauffement climatique, ça a une influence sur le climat et donc sur l'évolution de la forêt. Et donc, en fait, on a remarqué que les jeunes, en fait, se nourrissent des jeunes pousses qu'il y a dans la forêt. C'est leur nourriture, parce qu'elle va être riche, avec des éléments riches en azote, etc. Et en fait, la maman qui va donner naissance à ses petits, en fait, ils ont constaté un process de gestation qui n'est pas commun avec d'autres espèces. Et c'est là la difficulté du chevreuil. Qu'est-ce qui se passe? En fait, elle se met en pause de gestation à partir en fait au niveau de l'automne. Pendant plus de 2 mois, le fœtus, en gros, bah, il reste stagnant. Et au solstice d'hiver, il va commencer à reprendre sa route. Donc quand il arrive en fait au printemps et quand les chevreuils arrivent, elle est réglée par rapport en fait au, à l'effet solstice d'hiver, donc le jour, la nuit la plus longue, etc. Et là, le processus remet. Donc ce qui fait qu'en fait, le chevreuil fait naître ses petits toujours à la même période. Sauf que la nature, maintenant, ne pousse plus à la même période à cause du réchauffement climatique. Alors, ce réchauffement, il est minime, parce qu'en fait, d'année en année, on a augmenté simplement de 0,06 jours, etc., le déplacement de cette végétation. Mais à force, et plus les années passent, eh ben, l'effet s'est accentué. Et par exemple, un petit chiffre pour vous rendre compte, la mortalité donc d'éléphants a explosé, passant de 35% par an entre 1985 et 2003, elle a augmenté à 60% entre 2003 et 2011.
Pour résumer, en fait, quand le petit chevreuil, le fan, il naît, il ne trouve pas de nourriture tout de suite parce que... Non,
la nourriture a déjà... En fait,
elle est déjà sortie bien avant qu'il naisse.
Ouais.
Et donc, il ne trouve plus toute la nourriture qu'il lui faut. Et donc, il n'a plus de quoi manger. Et voilà.
Ouais, voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qui est étonnant, en fait, c'est pourquoi on ne comprenait pas, pourquoi Bambi n'arrivait pas à s'adapter. Et en fait, ça vient vraiment d'un problème apparemment biologique de la mère qui est réglé, qui aura un système tout simplement biologique qui serait réglé par rapport en fait, au cycle jour-nuit. Et donc, quand elle commence, quand on arrive aux solstices d'hiver, donc là, on n'y peut rien, hein, c'est la planète qui tourne. Et donc, on arrive à une période, et ben, elle n'est plus adaptée à la période naturelle qui était depuis... depuis, on va dire, j'allais dire la nuit des temps, mais j'en rajoute peut-être un petit peu. Donc, en gros, voilà pour l'histoire. Je ne sais pas comment ça vous touche.
La solution pour les chevreuils est peut-être la migration, non ? De remonter un peu plus au nord pour arriver à trouver des conditions.
Exactement. Voilà, tu viens de dire la solution. En fait, on a constaté que c'est une espèce qui se développe plutôt assez bien partout. Et en fait, finalement, ça va être les agriculteurs qui vont en payer le prix. Surtout que maintenant les champs sont facilement accessibles, il n'y a plus de haies, etc. Maintenant, comme d'autres espèces animales, elles vont de plus en plus maintenant dans les champs pour pouvoir manger les produits des agriculteurs. Voilà.
Ce qui est intéressant, donc, comme vient de le dire Fred.
Normalement, les produits des agriculteurs sont riches en azote.
Voilà. Donc, il y a des espèces qui vont vers le nord, il y a des espèces qui essaient d'aller dans des altitudes plus élevées. C'est pas le cas du chevreuil.
Oui.
Pareil, il va pas dans des tours, plus haut dans les tours avec le réchauffement climatique.
En fait, sur le coup, ça n'a pas trop inquiété non plus les biologistes, cette histoire, mais en gros, l'idée, c'est que si ce phénomène perdure et dure plusieurs décennies, là, on a un réel problème pour finalement une espèce qui est très répandue. On est loin de l'espèce comme l'ours ou le loup qui va venir dans les villes. C'est pas ce cas-là.
On revient à l'homme.
Revenons à l'homme.
Et à l'humain. J'y vais.
Ah bah vas-y.
Moi, j'ai retenu deux autres choses qui concernent l'énergie et qui touchent notre porte-monnaie. Hein, c'est l'augmentation des tarifs du gaz et l'augmentation des tarifs de l'électricité. Alors, en ce qui concerne...
Comment c'est possible, ça?
Bah, effectivement, comment c'est possible? Jean-Marc Ayrault, avant de partir,
il a pris un
décret pour limiter l'augmentation du tarif de l'électricité à 2%. Bien sûr, nos chers producteurs d'électricité s'en sont plaints. Le Conseil d'État...
Très cher.
Oui, donc se sont plaints et le Conseil d'État s'est saisi du problème.
Attends, je t'ai pas suivi. Qu'est-ce qui s'est plaint?
Ben, les producteurs d'électricité.
Les producteurs, hein, d'accord.
Et voilà, les fabricants, enfin je sais pas comment tu les appelles. Voilà, on a dit qu'on donnait pas de nom. Et donc,
le Conseil d'État... Ça commence par eux, ça finit par F.
Voilà, et donc, je peux finir mon écrit. Le Conseil d'État donc a invalidé ce décret au motif que la limitation de l'augmentation à 2% ne permettait pas à ces producteurs d'électricité de financer le renouvellement de leur réseau et de leur centrale de production d'électricité, dont Frédéric.
Et financer les actionnaires.
Fessenheim. Oui, mais enfin, pour l'instant, ils ne peuvent pas se poser trop de questions sur Fessenheim, vu que pour l'instant, la problématique pour Fessenheim serait plutôt de rajouter 10 ans d'existence. Donc, ils ne s'en sont pas du tout encore à des problématiques de démantèlement.
Alors, ça pose
vraiment d'autres questions par rapport au coût de l'électricité à l'avenir. Oui.
Ce qui est intéressant dans cet argument, c'est que apparemment, le Conseil d'État se référait à une seule étude pour justement dire que, pour arriver à la conclusion que les 2% d'augmentation ne permettraient pas de financer le renouvellement du réseau, etc. Et cette étude, bien sûr, elle a été...
On sent le truc arriver.
Et oui, cette étude a été produite et fournie par EDF. Et bien sûr, l'UFC Que Choisir demande qu'il y ait un audit indépendant des chiffres d'EDF pour vraiment clarifier cette situation, à savoir, est-ce que 2% d'augmentation réellement ne permettent pas de renouveler ou de rénover le réseau de distribution.
Qu'est-ce qui a posé cette question, Que Choisir ?
L'UFC Que Choisir.
Donc en fait, ils ont eu accès à l'étude et ils la trouvent suspicieuse, on peut le dire.
Oui, voilà, c'est d'autres.
Bon, d'accord.
Ils y mettent, enfin, ils se posent des questions.
Ils l'interrogent.
Oui, parce que bon, après, EDF pourrait faire des études, mais si elles sont bien faites.
Donc,
oui.
Le tarif, la conclusion de tout ça, c'est que le tarif.
Je sais pas, il y a Serralini.
Le tarif de l'électricité va augmenter de plus de 2%, malheureusement, je tenais à vous le dire. Voilà. Donc, on va peut-être éteindre la lumière du studio tout de suite.
Ouais, faisons des économies.
Un dernier point d'actualité concernant l'énergie, je vous parlais aussi du tarif du gaz. Et donc une nouvelle taxe est apparue pour les ménages.
Non mais arrête, tu parles que d'augmentation là, c'est stop.
C'est la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel qui donc va être mise en place très prochainement. Je perds la date, le 1er avril. Ah non, je me suis fait avoir.
C'est une blague.
Non, c'est vrai, malheureusement. Mais le prix global du mégawattheure ne va pas augmenter puisqu'il y a par ailleurs des diminutions. Au moins, enfin il ne va pas augmenter au moins pour l'instant, mais on sait que dans l'avenir, de toute façon, tout ça va augmenter fortement. Voilà.
À terme, et on peut se poser des questions par rapport à la situation en Russie, en Ukraine, tout ça, où le gaz reste une monnaie d'échange plutôt assez inquiétante, je trouve.
Et au fait, Fred, c'en est où ton défi énergie ?
Ça progresse. J'économise.
C'est l'actu, ça. Hein.
Non, c'est vrai. J'avais complètement zappé. Il faut que j'aille faire mes relevés. Mais écoute, après un premier mois assez catastrophique où j'ai augmenté ma facture d'eau de je sais plus combien de pourcents et ma facture de gaz également avec une fuite d'eau chaude. Je pense le seul à avoir des.
Oui,
ce genre de
tu m'avais parlé. Ouais, la fuite.
Là, ça y est, je me.
C'est grâce à ce défi que tu as repéré ta fuite.
Là, je pense que je peux garder 2-3 mois avant de me rendre compte. Et donc ça avance. Faut que je rentre les. Enfin, je pense qu'on va pas gagner. Je pense qu'il y en a déjà qui sont à plus de 20% d'économie d'énergie, mais ça doit être des équipes qui trichent. Moi, je me renseigne un petit peu.
Ok.
Là, sinon, non, je voulais faire quand même moi mon petit point personnel, parce que bon, il y a quand même eu des élections depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Alors,
je ne ferai
évidemment aucun commentaire sur la politique locale, qui n'est pas.
Non, mais parce qu'on a parlé d'une espèce justement qu'il fallait protéger, donc les caméras de surveillance là, qui vont être, on va les protéger, c'est ça ?
Ça, je sais pas. J'ai pas d'avis sur l'existence de cette espèce. Je me pose des questions sur son utilité, mais bon, c'est pas. Et donc, enfin, ces élections locales ont eu des effets au niveau national et on a un nouveau gouvernement avec une nouvelle ministre de l'écologie qui est reconduite, Madame Ségolène Royal. Alors, j'ai pas encore trop épluché ses projets et ses idées pour l'avenir. Enfin, juste cette fameuse écotaxe qui risque de revenir sous une forme ou une autre, hein, chose à laquelle je suis pas complètement défavorable. Et on voit encore remonter au créneau notre ami Arnaud Montebourg avec ses idées de centrale nucléaire au mieux et son gaz de schiste qui est indispensable. Je sais pas si vous avez entendu ses déclarations la semaine dernière, mais c'était encore assez efficace dans ce.
Non. Personnellement, je ne les ai pas entendues, mais.
Entendues.
Quel mot, incroyable.
Et donc, ça nous laisse présager quelques beaux mois à venir. Je ne sais pas.
D'accord, donc on sent beaucoup d'ironie dans tes propos. Ça sent pas bon.
Sur l'unité du gouvernement ou.
Sûr.
L'unité du gouvernement.
Ah, sur l'unité, je ne sais pas, parce qu'effectivement, il n'y a plus d'écologistes, donc ils ont résolu quelques problèmes. Mais aussi bien sur la durée de vie de Fessenheim, c'était un engagement de départ et je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et puis, ce ministre qui est très revendicatif sur la nécessité de se lancer dans le gaz de schiste. En fin de compte, actuellement, le plus gros. Alors, il y a des gros lobbies qui luttent pour. Et les plus gros lobbies qui luttent contre, c'est le cinéma. Il y a un film là qui est sorti mercredi pour dénoncer les méfaits du gaz de schiste, enfin l'exploitation des gaz de schiste. Alors là, pour le
aux États-Unis,
je sais plus. Et il y a aussi toujours le jeu, enfin un jeu sur qu'on peut voir sur Arte qui parle de ça. Voilà, mais bon, ce qui me fait toujours sourire, c'est de voir ces gens qui reviennent avec leurs idées tellement arrêtées et qu'on écoute. Voilà.
Bah, ces gens qui reviennent, ou par exemple même Bourg qui attaquait férocement, Bouygues, etc., que finalement maintenant dans les grands dossiers, maintenant qu'il a du pouvoir, finalement travaille vraiment main dans la main et même essaie de les aider. Mmh. On a toujours l'impression que c'est beaucoup plus facile de parler ce qu'on fait nous, d'ailleurs. Hein. Mais finalement, quand après ils doivent appliquer ce qu'ils disent, ils le font pas, ils changent finalement de
c'est pas une émission politique là.
Oui, justement, c'est pour ça que je voulais revenir sans parler de politique. En fait, là, pourquoi ça te pose problème finalement qu'il y ait ce changement là? C'est parce que les dossiers qui étaient en travaux, les travaux en cours vont pas être poursuivis, c'est ça?
Non, ce qui me pose problème derrière ça, c'est que c'est plusieurs problématiques personnellement qui me tiennent à cœur. Alors notamment sur l'exploitation des gaz de schiste. On a aussi les questions sur les OGM où il y a encore eu des choses de votées qui, pour moi, vont pas dans le bon sens. Et parce que au-delà de l'aspect politique, c'est vraiment un aspect économique où finalement des grosses entreprises qui ont ces marchés bien en main veulent que coûte faire avancer leurs billes sans se poser de questions du long terme. Et je crois que c'est le long terme, c'est une politique qui doit le ramener sur la table et remettre toutes ces décisions dans leur perspective d'avenir. Quoi.
Ok, salut à tous. Petite coupure musicale, je plaisante bien sûr. On se retrouve tout de suite après pour parler de la déviation sur Évreux. Allez, à tout de suite. merci. Vous êtes bien de retour donc sur Principe Actif dans votre émission Un Art de Vie. Et vous venez d'écouter
New Order, qui est interprété en studio, non pas en studio, pardon, The Perfect Kiss sur l'album Low Life, un album de 1985.
Merci Jérôme. Alors, comme prévu, nous, aujourd'hui, nous allons vous parler donc de la déviation sud-ouest d'Évreux. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec toi, Jérôme, parce que tu vas justement, parce que moi, personnellement, je suis pas trop d'actu sur ce dossier-là. Et d'où vient ce projet? Pourquoi une déviation à Évreux? Je crois que tu vas...
Pourquoi aujourd'hui?
Voilà.
Pourquoi aujourd'hui, 20 ans après les premières études?
20 ans après, pourquoi on ressort les vieux dossiers?
Bon, déjà, on va peut-être situer géographiquement.
Évreux.
Évreux, capitale de l'Eure. Donc, effectivement, la déviation sud-ouest, les travaux de déforestation ont commencé. Je pense que ceux qui passent près de Navarre, qui empruntent le chemin Potier pour se rendre dans la zone industrielle numéro 2, ont constaté des travaux d'abattage d'arbres. Et en fait, voilà, ce sont les premiers travaux pour réaliser cette déviation qui, à terme, se concrétisera par deux fois deux voies et un certain nombre d'ouvrages d'art.
Ah oui, et une saignée de 28 hectares de forêt.
D'accord.
On a dit qu'on commençait pas à politiquer maintenant. Alors, la genèse de ce projet, effectivement,
oui,
pourquoi est-ce qu'on fait une deux fois deux?
Pourquoi une déviation?
Voilà. Alors, pourquoi une déviation? C'est pour, en fait, dévier, une déviation, hein, un trafic important, en fait, qui vient de la Nationale 13 en provenance de Caen, Lisieux, etc., et qui va vers Paris. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les véhicules qui viennent de ce côté, c'est-à-dire du côté ouest, pour se rendre côté est, sont obligés de traverser la ville d'Évreux par l'avenue Foch, le boulevard de Normandie. Vous me suivez toujours, monsieur?
Ouais, on se suit.
Le boulevard des Cités-Unis, déboucher au rond-point où il y a Speedy, etc., prendre la route d'Orléans, le grand rond-point et récupérer la déviation sud-est.
Donc, voilà. En gros, l'idée, elle est plutôt bonne. Et ça va permettre enfin d'éviter des embouteillages, que des camions passent et transitent par le centre-ville.
Exactement, parce que mine de rien, on a beau se plaindre qu'on abat des arbres, etc. Je rappelle que arriver à ce rond-point pour accéder à la déviation sud-est, donc là je suis à côté de chez Speedy, vous suivez toujours?
Je sais pas, ils t'ont changé de peau gratuitement.
Donc c'est quand même plus de 20 000 véhicules jour qui est à cet endroit-là.
Actuellement?
Actuellement.
Aujourd'hui?
Aujourd'hui, voilà. Et donc effectivement l'objectif c'est vraiment que ces véhicules ne traversent plus Évreux.
Voilà, c'est vraiment des véhicules qui ne s'arrêtaient pas à Évreux, c'était juste la ville transitoire, quoi.
Exactement. Voilà. Donc l'idée est bien sûr, voilà, de dévier cette circulation et de faire un raccordement à cette déviation sud-est qui existe depuis, qui est en service depuis 1996. Et rappelons que cette déviation sud-est, elle permet de passer de l'est, je viens de Paris, je suis à l'est, National 13, pour arriver jusqu'à Angerville, au rond-point des Fayots. Voilà.
Marrant. Okay. Au point des Fayots, je ne ferai aucun commentaire.
Je vous tends une perche, je vous laisse si c'est pas, monsieur. Voilà. Alors, en fait, le projet est rentré dans une phase active à la fin des années 90, hein, puisqu'il y a eu un certain nombre d'études, d'enquêtes, etc.
Alors, excuse-moi, je te coupe, en fait, parce que ce projet-là, il vient, en fait, de la colère des Ébroïciens, c'est ça?
Je ne dirais pas.
Il vient plutôt de la volonté parisienne,
voilà,
de
volonté
de pouvoir se rendre rapidement.
Comment ça, c'est possible?
Contre Évreux et de ne plus traverser Évreux. Voilà. Non, mais ce qui est important, c'est ce calendrier. Donc, comme je vous le disais, la déviation sud-est rentre en service en 96. Première étude concernant la déviation sud-ouest, 1998. Et là, bien sûr, il y a un avant-projet, il y a une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Donc, il y a vraiment une consultation, on ne va pas parler de concertation, mais c'est bien une consultation. Et là, je vais tendre la perche à Frédéric. Il y a une mission d'expertise spécialisée en environnement.
Et qui est financée par Total. Mais
c'est même pas vrai.
C'est pas vrai.
Le Conseil général des ponts et chaussées, par une mission d'inspection spécialisée en environnement, qui est une mission de l'État, etc. Donc, des gens très crédibles. Voilà.
Oui, dans des gens très crédibles et qui ont émis des avis et qu'on peut espérer qu'ils soient respectés par la suite. Ce qui n'a pas été le cas pour l'instant sur le rond-point de Cambol avec les mesures de compensation, le reboisement et tout ça, ça n'a pas été fait.
Bon, on y reviendra.
Voilà. Oui, voilà.
Que l'étude de 98 ait été faite, je dis aucun.
Cette déviation, ça va être quoi? Ça va être une deux fois deux voies avec un statut de route express. Donc deux fois deux voies avec une oui. séparation au milieu, une vitesse limitée à 110 km/h ponctuellement, mais sinon du 90 km/h. Voilà. Et donc une longueur totale de 8120 mètres.
25.
Entre les Fayots et Parville-Ouest. Rappelons, Parville-Ouest, hein, ce sera juste au-dessus du nouvel hôpital.
Ok, d'accord.
D'accord.
Alors voilà. Moi, déjà, juste un point, ça me fait quand même sourire cette configuration où on va mettre, en fin de compte, juste alors pour contourner Évreux, on va mettre une 2x2 voies limitée à 110. Alors qu'on vient de la RN13 qui arrive de Paris, où la plupart du temps, c'est une 3 voies maximum qui est limitée à 90, pour reprendre après Évreux, ce qui n'est même plus la route nationale 13 après Évreux, qui est devenue, je crois, une départementale, c'est-à-dire la route qui part d'Évreux pour rejoindre Lisieux. Et à nouveau une 3 voies limitée à 90. Donc le seul endroit où les gens vont pouvoir rouler vite, c'est la bordure d'Évreux. C'est encourageant.
Okay. Enfin, cela dit, il faut aussi considérer ce projet comme une nouvelle desserte des zones d'activité qui sont en lisière d'Évreux, notamment le Lambusson, la zone de la Garenne.
Ouais, donc ça va favoriser le centre-ville d'Évreux.
Pardon. Il me cherche. Non, mais ça va vraiment rebooster nos zones d'activité, favoriser les échanges de marchandises. Bientôt, on aura peut-être du ferroviaire, pardon, pour transporter les marchandises. Non. Donc voilà.
Attends, rappelle-nous là, Jérôme, c'est prévu pour quand?
C'est prévu pour quand? Quand les travaux seront finis. Alors, parlons des travaux. Non, il y a donc là, bien sûr, la première étape que certains ont sans doute remarqué, c'est bien sûr du déboisement le long du chemin Potier, parce que c'est le nœud qu'il faut absolument, enfin le problème qu'il faut absolument éviter, c'est un retard dans la réalisation d'un nouveau pont pour le train entre Paris, Évreux et Cherbourg. Donc il y a un nouveau pont qui doit être réalisé, rehaussé, et donc ce pont, il doit être absolument le tablier.
C'est planifié déjà.
C'est planifié depuis des
le
années.
Tablier, le tablier, des termes.
C'est la partie du pont, voilà, voilà, sur lequel on roule, etc.
Bon. Ouais.
Et donc ce tablier sera posé donc en 2 jours, normalement en quelques jours, en avril 2015. Et donc pendant ce temps-là, le trafic ferroviaire va être arrêté. Et donc s'il y a du retard dans les travaux qui sont prévus en amont sur cette déviation, eh bien les travaux de pose du tablier seront retardés. Et donc, eh ben, SNCF devra refaire des calculs savants pour arrêter à nouveau pendant 2 jours au moins le trafic ferroviaire sur cette ligne.
Oui, okay. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements sur l'arrêt du trafic ferroviaire. Alors on voit que c'est pris en compte et de manière, on comprend bien que c'est quand même quelque chose de très contraignant d'arrêter complètement une ligne de chemin de fer.
En gros, il y a des risques que ça devienne un gros bordel, quoi.
Alors oui, mais je pense pas que ce soit le ferroviaire qui sera le plus en question. C'est qu'il va y avoir aussi la coupure de beaucoup d'axes routiers, notamment alors le chemin Potier qui va être coupé complètement sur 2 périodes distinctes.
Voilà, commencer donc par fin avril. Donc c'est une annonce, c'est une information de principe. Donc c'est, voilà, à partir de fin avril 2014, Kevin.
Oui.
2014.
Fin avril, c'est 25-26, ouais.
Voilà. Jusque début août 2014, où tu ne pourras plus emprunter avec ta voiture le chemin Potier. Je rappelle que le chemin Potier, donc c'est le chemin qui longe la zone industrielle numéro 2. Grosso modo, tu pars du collège Georges Polizet à la Madeleine, et tu vas jusqu'à Navarre par la forêt. Voilà, c'est ce qu'on appelle le chemin Potier. Donc ça va être fermé de fin avril 2014 jusqu'à début août 2014.
Et pour tous ceux qui ont utilisé le chemin Potier le soir autour de 17h ou le matin, enfin surtout le soir, on sait que c'est un petit axe qui est finalement très utilisé pour éviter justement déjà la traversée du centre-ville par les gens qui reviennent de la zone de la Madeleine pour retourner sur Arnières, voire sur Saint-Sébastien.
Alors il y aura une deuxième coupure, comme tu le disais Frédéric, la deuxième coupure, donc elle est programmée de mars 2015 à décembre 2015. Voilà. Bien sûr, il y a une campagne de communication, d'information qui va se mettre en place très prochainement, puisque...
Fin avril.
Non, à partir de lundi. Puisque il y a un certain nombre...
C'est là qu'on voit qu'on est sur l'actualité, quand même.
Il y a eu un certain nombre de destinataires d'un kit communication. Bien sûr, les mairies concernées, les établissements scolaires, les services publics, les entreprises vont recevoir à partir de la semaine prochaine une information.
Une information pour communiquer. Alors, là, Jérôme, je te coupe, mais...
Cours, s'il te plaît.
En fait, j'aimerais savoir, dans ce projet-là, on a vu que c'était au niveau de l'État, tu parlais tout à l'heure en off, que ça allait aller du côté des Beaux-Saint-de-Croix, etc. Là, concrètement, la route, elle va...
Donc pendant ces deux périodes de fermeture du chemin potier, effectivement, il y a d'autres itinéraires qui ont été prévus. Le premier itinéraire prévoit un passage par les Beaux-Saint-de-Croix et plus au sud encore, par Danville, pour rejoindre Conches, etc. Donc effectivement, les Beaux-Saint-de-Croix, ça va être encombré.
Ça va être chaud. Mais en sachant qu'après, ça sera la route dernière qui va être coupée en partie, et après la route de Saint-Sébastien. Il faut savoir que c'est des routes, contrairement à l'axe Paris-Lisieux, qui a plutôt vu sa fréquentation diminuer de manière imprévisible, du moins par rapport aux études de 98. C'est deux axes qui voient, je crois, environ 12 000 voitures passer tous les jours. Donc c'est quand même des axes secondaires qui sont très très utilisés. Et au moins, je vais dire, pendant le temps des travaux, ça va être très très compliqué pour tous les gens qui fréquentent cet axe-là. Par contre, Kevin, j'ai cru comprendre que ta question concernant la route concernait plutôt le trajet exact de la déviation.
Oui, c'est vrai, ouais, j'en parlais. Ouais, c'est exactement.
Le trajet exact de la déviation, sud-ouest ou bien de la déviation temporaire pour les travaux. Soyons précis dans les questions.
Du projet final,
c'est relativement simple.
Parce que bon, après, on peut comprendre quand il y a des travaux.
Ouais. Donc, Donc, imagine, tu es en Gerville, au rond-point des Fayots, que tu situes parfaitement.
Ok, je vois maintenant.
C'est bon. On va longer le parc d'activité de la Madeleine. Donc, le parc d'activité de la Madeleine, en fait, c'est deux parties. C'est le parc d'activité de la forêt, après ce qu'on appelle la zone industrielle numéro 2, où il y avait Glaxo.
Ouais, il y a toujours.
D'accord, il y a toujours. Donc.
Assure-moi.
Enfin, bon, je sais plus pas. Donc. On contourne, d'accord, cette partie par les champs, etc. On ira à pied demain, si tu veux. Et puis, on rattrape le chemin potier. Et donc, il y aura une nouvelle voie qui va longer. Le chemin potier va être habilité, mais en plus petit. Et donc, il y a cette quatre voies qui va longer le tracé actuel du chemin potier. Voilà.
Donc là,
c'est difficile à imaginer quand on voit la zone de Varenka.
On arrive là au niveau de Navarre, on est juste derrière l'hippodrome.
On contourne
légèrement l'hippodrome, ou alors on va peut-être le chevaucher avec un pont. Et on va remonter après vers Saint-Sébastien-de-Morsan, Parville, etc. jusqu'au rond-point qui est à proximité donc du nouvel hôpital.
Ok, d'accord. Mais ouais, c'est pareil, complètement logique. Donc on peut quand même le rappeler là aux auditeurs ou aux gens qui habitent dans le coin, c'est trop tard pour manifester. Le projet est lancé, voilà. Ça sert plus à rien de gueuler.
Il n'y a plus d'orchidées, il n'y a plus de fourmis.
Votre maison ne vaut plus rien aussi. Il va y avoir une quatre voies à côté, malgré qu'elle était magnifique. Le coin était sympa, mais c'est fini tout ça.
Alors je ne crois pas que tous les recours soit terminé. Hein. Je pense qu'il y a pas des choses à faire. Mais
Oui, parce que je crois que tu as quelques infos, Fred.
Je laisse Jérôme terminer sa présentation.
Non, je voulais parler après des protections, voilà. Des mesures de protection environnementale.
Notre but n'est pas d'avoir une émission à charge. Hein. C'est le but est vraiment d'essayer d'avoir le regard le plus neutre possible sur cette déviation.
C'est pour ça que tu t'es intéressé à l'ENE, c'est ça? Nature Environnement, sont très colériques.
Alors oui, enfin colérique. Je veux dire, c'est une association évreuxienne. C'est une antenne des associations nationales qui se trouve à Évreux et qui sont depuis le début très remontées, qui sont contre le projet actuel dans sa conception et dans sa réalisation, et qui c'est eux qui organisent un petit peu les manifestations, les rencontres qui cherchent à faire qui cherche peut-être à arrêter le projet ou du moins à le faire évoluer vers un projet qui soit à la limite plus adapté aux besoins d'Évreux. Pour l'instant, tel qu'il est conçu, on peut quand même se poser la question de l'intérêt d'un investissement de 174 millions d'euros.
Quand même.
Alors c'est quand même un investissement très important qui permettrait de faire beaucoup de choses. Alors c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que l'argent qui est destiné à ce genre de choses, si on fait pas ce projet-là, ça veut pas dire que la ville d'Évreux va l'avoir, donc c'est très compliqué. Mais bon, c'est quand même un gros projet et qui est pour l'instant formaté d'une manière qui paraît très inadaptée aux besoins actuels d'Évreux.
Concrètement, là, l'ENE, qu'est-ce qu'ils remettent en cause dans ce projet?
Alors, la première chose qu'ils remettent en cause, c'est toutes les données de circulation. Tout à l'heure, Jérôme parlait de 20 000 véhicules jour. Oui. Moi, la dernière réunion d'information à laquelle je suis allé, je n'ai pas retrouvé les documents que j'avais récupérés ce jour-là. Et je n'ai pas retrouvé. Donc,
moi, je m'engage sur ces 20 000 véhicules jour, puisque.
Tu les as comptés hier.
Dans mes activités professionnelles, j'ai suivi le comptage.
T'as eu le retour.
Ouais. Ouais. Non, mais c'est, la question, c'était 20 000 véhicules jour aujourd'hui. C'était ça la question.
Décembre 2012.
Ouais, 2012, donc j'ai déjà 2 ans. Donc je crois qu'on est déjà à 18 610. Et donc la question, pour un projet qui était au départ formalisé sur, j'allais dire, quasiment le triple de circulation.
Ah ouais?
Sur la circulation sur cet axe-là. En fin de compte, c'est un axe qui a été en 98 avec des prévisions de circulation et la réalité s'est trouvée bien différente puisque finalement, alors c'est soit une diminution de l'activité économique ou soit notamment avec l'autoroute de Rouen qui va jusqu'à Caen, cet axe-là n'a plus du tout la même fréquentation.
Donc pour être clair, en fait, le NE s'était proposé donc Évreux Nature Environnement, c'était proposé un peu comme une alternative de la vision des prévisualisations en fait futures d'Évreux. Et aujourd'hui, donc entre le début du projet en 1998 et en 2014, Évreux Nature Environnement dit que ce projet, même s'il est intéressant, etc., finalement, ses fondements aujourd'hui ne sont plus d'actualité, donc ils devraient être ajournés, revus, revisités ou même peut-être annulés. C'est ça,
ça fait pas 16 ans qu'ils sont contre, hein, je veux dire, le projet de 98. Là, c'est vraiment le. Parce que là, on part d'un projet voilà, qui va avoir une vingtaine d'années. Tout le monde peut se poser la question. Enfin, je veux dire, je sais pas, si tu as un projet pour construire ta maison, que tu fais un plan en 98 et que finalement, pour des raisons X ou Y, tu n'as pas les moyens de la faire construire en 98. Et que là aujourd'hui en 2014 tu dis bah tiens ça y est j'ai les moyens je vais faire construire ma maison, ça m'étonnerait fortement que tu reprennes tes plans de 98 parce que tu vas savoir qu'il y a une évolution dans tes besoins parce que je sais ta situation familiale de 98 tout ça est une et en 2014 c'en est une autre et de dire cette prise en compte là moi elle me paraît indispensable.
Je veux indispensable dire,
on peut pas s'appuyer sur un projet formaté pour des demandes en 98 avec des prévisions de trafic qui sont révélées fausses et donc forcément dans la configuration actuelle des 2x2 voies voire 1x2 voies, 1x3 voies pour une voie véhicule lent, on peut se demander est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut à Évreux aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment important d'avoir cette espèce d'autoroute qui va faire le lien entre le rond-point des Fayots et le rond-point de Cambrai.
Je suis obligé de laisser la parole à Jérôme pour prendre la main.
Oui, effectivement, parce que je vois que tu es en train de chronométrer le temps de
voilà,
la parole.
Exactement. Ouais. Parce que là, je sens, là, vous êtes habité par vos rôles. Là. C'est très bien. C'est très
donc,
bien.
Effectivement, la remise en cause de ces comptages, ça veut dire que NE a aujourd'hui des données qui lui permettent de contester celles qui avaient été mises en avant et qui, sur lesquelles repose ce projet.
Alors, je crois, franchement, je veux pas du tout parler au nom de NE parce que je ne fais pas partie de NE et je n'ai pas réussi à retrouver les documents.
Lâche-toi.
Non, c'est juste par honnêteté intellectuelle par rapport à.
C'est juste que la réalité.
Le deuxième point,
c'est qu'on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas considérer que la déviation sud-ouest soit un projet uniquement pour les Ébrouissiens.
Oui.
C'est politique ce que j'ai.
Oui, oui, il faut penser aux autres.
Il faut penser aux Parisiens.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et
c'est parce que les Parisiens pensent à nous.
Voilà. Mais effectivement, bon. Moi, ce que je voudrais dire.
Dans le projet
après,
officiel, est-ce qu'on a référencé l'impact écologique de ce projet?
Oui, et je propose qu'on le voit après une pause musicale.
Eh bien, c'est parfait comme transition, ça. À tout de suite.
Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aimerais rechanter et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Samba, son tristesse est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Les plus profondes, c'est la la samba chanson qu'il faut chanter.
Sur un air de vie de votre émission, donc toujours sur Principe Actif 102.4, avec un sujet chaud d'actualité, la déviation sud-ouest d'Evreux, toujours avec votre trio JFK. Jérôme, tu reprends la main. On parlait de l'impact un petit peu sur la faune et la flore de ce projet, de cette déviation. Donc, qu'est-ce que tu as à nous en dire là-dessus?
Effectivement, donc le projet, dans sa conception, tient compte de la qualité environnementale des différents sites qui sont concernés par plusieurs points.
Donc Jérôme représente donc la voie gouvernementale et Fred représente l'alternative, la voie en colère. Okay.
Alors, la première chose, bien sûr, qui nous concerne tous, puisqu'on est en train de boire de l'eau dans ce studio, c'est la protection des captages, puisqu'on est en pleine zone de captage d'eau, notamment donc ce qu'on appelle la queue des rondelles. Voilà, où c'est une zone de captage pour boire l'eau du robinet. Et donc, il fallait préserver, bien sûr, la qualité.
Il y a un centre d'épuration d'eau à Arnères.
Exactement, donc qui est concerné. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises en compte par le tracé de la déviation, et puis aussi parce que à cet endroit-là, la déviation va être surélevée. Pour le dire très rapidement. Donc ça, c'est vraiment la première mesure de protection. Donc je continue. La deuxième mesure.
Un petit mot sur l'eau, non?
Comment?
Je peux pas dire un petit mot
sur l'eau? Bien sûr, parle. Vas-y.
Donc en effet, sur l'eau, il y avait le problème des captages et ce problème a été largement, tout comme Évreux, contourné. C'est-à-dire que les captages ont été déplacés. Ils ont été remontés alors plus en amont, plus en aval. J'ai un peu de mal avec les termes pour éviter. Pour qu'en fin de compte, la déviation puisse passer sur le trajet prévu. En fin de compte, elle passait sur les zones de captage et le captage a été déplacé, ce qui a nécessité notamment la construction de retraites d'eau. Par contre, on sait aussi, alors aussi bien sur les temps de construction, parce que construire une déviation, c'est quelque chose qui est mécaniquement assez fort, donc on peut se poser des questions avec les mouvements sur le sol pour les répercussions sur les nappes phréatiques, et même par la suite sur la qualité de l'eau d'Evreux qui risque d'être impactée par cette construction.
Ah oui, ça va fort. Alors,
deuxième mesure sur lesquelles que je voulais vous présenter.
Oui, monsieur le gouvernement.
C'est effectivement les ouvrages réalisés pour aider la faune à maintenir ses déplacements.
Oui, alors donc, comment on fait ça?
Alors, il y a un ouvrage pour la grande faune en traversée de la forêt. Donc, eh bien, on leur réserve des passages souterrains ou des buses ou ce genre de choses. Voilà. Et puis, bah, les humains ne sont pas laissés en reste, hein, puisqu'il y a un certain nombre de passerelles qui sont prévues, dont une
passages piétons.
Sur la partie A110, ça va. Et une passerelle aussi pour les chevaux, sur lesquels les chevaux pourront...
Mais en fait, d'ailleurs, j'y pense, mais j'imagine, c'est un petit peu des travaux pharaoniques, on peut le dire, quoi. C'est des gros projets, mais pendant qu'on fait ça, je me dis, justement, tout à l'heure, on parlait de chevaux, etc., mais toute cette populace va s'enfuir à droite à gauche, non? Parce qu'après, on réfléchit à comment essayer de leur faire des petits couloirs pour qu'ils puissent se déplacer, mais pendant les travaux, vous pensez qu'on y va avec des pincettes?
Ça va pas plus les effrayer qu'une bande de chasseurs, mais voilà, non, ils vont revenir, c'est leur habitat, c'est leur zone d'alimentation, etc. Donc, troisième mesure de protection.
Ok, on arrête les guillemets sur ta vision des chasseurs. On aime ta vision des chasseurs.
J'aime bien l'optimisme de Jérôme. Monsieur, ils vont revenir.
Le classement de la forêt d'Evreux en forêt de protection, effectivement. Donc, je pense que c'est un élément fort, même si c'est un élément juridique. Donc, il y a un certain nombre d'obligations par ce classement. Et donc, effectivement, il y a eu un déboisement pour permettre la mise en place de ce nouveau tracé. Et ce déboisement, normalement, doit être contrebalancé par des mesures de, comment appelle-t-on ça, chez ENE,
de compensation.
Ouais, voilà. Mesure.
Alors, ces mesures de compensation.
Alors, non, donc oui, la forêt d'Evreux a été classée DUP, hein, déclaration d'utilité publique en 92, et donc c'est l'État qui a racheté une grosse partie de la forêt pour pouvoir la protéger. Le but était, c'est une richesse, la forêt, c'est une richesse pour la ville, c'est une richesse pour la région, et
L'État rachète la forêt, la déclare comme richesse, et là, on va faire une déviation dessus.
Ben voilà. Et... le plan Nature du Mille a interdisé de passer sur les captages d'eau et ça va passer quand même.
Donc,
donc quand vraiment on veut faire les choses, on y arrive. Donc c'est tout un massif d'environ 2000 hectares et qui a été classé en forêt de protection en 2007. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 28 hectares qui vont être déboisés pour le passage de cette déviation. Et donc ça pose vraiment question, d'un côté on veut protéger la forêt, on investit, et de l'autre côté on dépense de l'argent pour la détruire. Donc c'est la balance entre les deux qui nous interroge.
Oui, la cohérence n'est pas très flagrante.
On paye pour reboiser, on paye pour déboiser.
Alors on peut peut-être quand même expliquer ce que sont ces mesures de compensation.
Alors oui, excuse-moi, j'ai pas répondu. Donc normalement, pour chaque hectare déboisé, il doit être prévu des zones où ça va être reboisé, au moins à niveau égal. Et alors donc c'est prévu dans le projet, hein, je ne remets pas du tout en cause les gens de l'écologie qui travaillent là-dessus, sauf que le seul, il y a plein de projets dans toute la France, mais au niveau de la déviation, le projet initial de la déviation a été un petit peu saucissonné pour permettre de faire en plusieurs tranches, et le fait de faire plusieurs tranches permettait de réduire le volume global et de ne pas rentrer dans pour pas être obligé de faire une enquête de débat public. C'est pour ça qu'on est resté juste dans la consultation, parce que ça, on n'arrivait pas à un certain niveau. Mais pour pas arriver à ce niveau-là, on a saucissonné le projet. Et en saucissonnant le projet, on a déjà une vision. C'est ce qui s'est passé sur le rond-point de Cambol, où il y avait des mesures de compensation prévues avec du reboisement. Et au jour d'aujourd'hui, ce reboisement n'est pas fait. Donc, il y a des zones de prévues.
Petite question, les gars. Vous savez de quelle manière va être fait ce reboisement? Parce que on est.
Avec des arbres.
Mais oui, justement, mais est-ce que on détruit une vraie forêt avec une vraie forme de vie et d'un seul coup on va planter les arbres alignés comme ça
Alors, il était prévu un verger au niveau du giratoire de Parville, comme vient de le dire Frédéric, effectivement, des plantations d'oranges et noyers, etc. Donc il y avait malgré tout un plan. J'ai pas eu connaissance qu'il y avait une organisation particulière ou bien les services de l'État concernés par tout ce qui est forêt qui allait intervenir, mais on a vu au début de toute façon que l'ONF et l'ONC étaient impliqués. Donc je pense qu'ils vont agir, ils vont apporter un conseil pour ce
l'ONC, tu as dit ?
Office national de la chasse.
Ok. Tes amis les chasseurs.
Voilà,
La seule chose que je sais à peu près sur cette mesure de compensation, c'est que la zone prévue est en effet délimitée et qu'il y a déjà une partie de cette zone-là qui finalement ne pourra pas rentrer dans le plan de compensation parce qu'elle est destinée à autre chose. Donc voilà, on peut juste se poser la question de... on sait qu'on doit le faire, mais est-ce que ça sera fait? Je ne sais pas.
Dernier point concernant les aspects, on va dire, environnementaux ou naturels, bien sûr, il y aura un certain nombre de bassins de captage d'eau pluviale, avec bien sûr une végétalisation, pour y mettre les petits poissons que j'aime tant.
Les voilà. Petites grenouilles,
les petites pêcheurs.
Les petits poissons, voilà. Mes amis les pêcheurs.
C'est bien, parce que les poissons, ils crient pas, donc personne s'en fout des poissons.
Voilà. Non, non, mais à partir de là,
les chasseurs.
Ce qu'il faut savoir, c'est que sinon, Sébastien de captage d'eau pluviale, on peut y redévelopper une certaine diversité écologique, hein, voilà. Et donc, ça contribue à l'intérêt naturel.
Oui, oui, on comprend, mais c'est quand même bien différent que l'état naturel des choses, quoi. On a beau, non? C'est bon.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que tu en penses de ce que tu viens de dire?
J'en suis convaincu.
Ok, et est-ce que le NE, qu'est-ce qu'ils en disent de tout ça maintenant?
Alors,
est-ce qu'ils ont encore d'autres choses à dire?
Eux, ils posent beaucoup de questions, ils posent beaucoup de recours. Après, c'est vrai que moi, je suis allé à la réunion et à la fin, j'ai dit, j'entends bien tous vos arguments. C'est vrai, je vous ai pas parlé du dépôt de munitions.
C'est vrai.
Hein, j'aurais dû. Mais il faut savoir que sur le trajet de la déviation, il existe un ancien dépôt de munitions et ce qui est sûr, c'est qu'il y a...
Un ancien dépôt de munitions, mais qui date de
la guerre.
Dans la légende des Bruxelles, il y aurait un Panzer enterré dans la forêt bruxelle.
Arrête.
Non, mais attends, parce que moi, j'ai des chiffres un petit peu... C'est un petit peu autre chose qu'un Panzer. Hein. J'ai 67 000 bombes allemandes de 2 kilos. Et d'autres de 500 kilos. J'ai des éléments d'obus de 75 français, des bombes de magnésium anglaises. J'ai des obus, des grenades. Alors, je veux dire,
ça donne la forme, ça, le magnésium. Voilà.
le contenu de ce. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une existence. Après, sur son contenu exact, je n'en sais rien. La question, c'est. Parce qu'en même temps, moi, je suis allé au débat de NE, et lors de ce débat-là, il y avait aussi des riverains de l'avenue Foch, des riverains. De la Buffardière, enfin des riverains de la route actuelle, et qui eux-mêmes disaient écoutez, nous, les camions au centre-ville, on n'en peut plus. Et c'est aussi quelque chose qui s'entend, c'est des gens qui sont arrivés à cette réunion-là en étant très très remontés. Bon, finalement, avec la discussion, ils sont un peu apaisés et la discussion a pu se mettre en place. Je crois que les gens de NE essaient aussi de discuter avec eux pour avoir des solutions alternatives, notamment sur la traversée de la ville de la nuit, parce qu'il faut savoir que la traversée d'Evreux est interdite de 22h à 6h du matin pour les camions. Il y en a quand même qui passent, cette interdiction n'est pas mise en pratique, mais elle existe de fait, donc c'est des choses qu'on peut faire respecter si on a la volonté de le faire, bien sûr. Et après ça, moi j'aurais posé la question, d'accord, le projet actuel paraît en effet très contestable, mais qu'est-ce qu'on fait sinon? Et donc derrière, il y a plusieurs alternatives, parce qu'en effet le projet actuel... c'est celui qui est voté. Alors, c'est très difficile parce que si on devait changer les choses, il faut arrêter le projet, refaire des enquêtes, tout ça. Mais
vas-y, qu'est-ce qu'ils proposent comme alternative?
Alors, eux, vraiment, finalement, ils se sont replacés dans leur situation d'association. Finalement, c'est pas les pouvoirs publics. Donc, eux, ils sont pas forcément une force de proposition en termes de travaux. Par contre, on sentait bien qu'il y avait plusieurs choses qui se dégageaient de leurs propos. Soit un arrêt complet. C'est-à-dire, on dit que le problème des transports.
Comme la SMAC, on arrête ça d'un coup.
Et on fait une poissonnerie. Mais mais un arrêt complet, et après on traite le problème de la circulation des camions d'une autre manière. Moi, par exemple, en favorisant le ferroutage, t'en parlais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est des problèmes. Enfin, je veux dire, la circulation des camions sur Évreux, là, le problème, on ne l'enlève pas, on le déplace. C'est-à-dire qu'il va sortir du centre-ville d'Évreux pour aller sur le contour d'Évreux, mais tout ce qui est pollution atmosphérique, tout ça, ça ne changera rien. Les camions passeront toujours. Plus en centre-ville, mais ils passeront toujours. Donc, investir ces fameux 174 millions d'euros dans du ferroviaire, ça peut être une idée qui peut paraître pas complètement aberrante si on arrive à mettre les choses en place. Il faut savoir que le transport de marchandises ferroviaires en France aurait plutôt tendance à diminuer. Donc c'est vraiment quelque chose qui paraît un peu... À l'heure où on essaie de favoriser les transports en commun pour les personnes, on ne le favorise pas pour les marchandises. Donc c'est une question. Après, il y a d'autres tracés qui existaient, notamment le tracé...
Nord. Voilà.
Nord.
Effectivement, il y a eu pour le moment une idée de tracé nord. Cela dit, ce qui a déterminé le choix d'un tracé sud, c'est l'existence déjà de la déviation sud-est pour celui-ci. Mais effectivement, le tracé nord était tout aussi pertinent puisqu'il y avait eu des simulations de fait par les services de l'État. Et donc là, on serait passé plutôt du côté de Sacanville, Aviron, je ne sais.
On aurait coupé entre Caer et Normanville pour remonter après, pour passer en effet derrière Aviron et rejoindre la RN13 du côté de Gauville. On peut aussi penser garder le tracé actuel et diminuer la taille, c'est-à-dire ne plus faire une autoroute, mais faire une simple deux fois une voie, c'est-à-dire faire une, donc la forêt sera impactée, mais de manière moins large. Et puis, en prenant cette optique-là, essayer de faire de réels échangeurs, à la fois pour la route d'Arnières, à la fois pour la route de Saint-Sébastien, pour qu'en fin de compte, cette route serve en effet aux Parisiens qui veulent se rendre sur la côte, mais également aux Ébroïciens pour éviter la circulation de centre-ville et pouvoir contourner Évreux de manière satisfaisante.
Merci beaucoup, Fred, pour ces dernières précisions. Merci Jérôme, merci pour votre talent d'expertise sur ce chaud dossier.
Demain, 12h30, un privé à Babylone. L'excellente émission de Gonzalo, suivie par les Vandales, et puis tout le programme de soirée et du dimanche.
Et dans 15 jours, on se retrouve pour une émission spéciale Pâques.
Exactement.
Ciao
à tous. Bye bye. Ciao.
C'était un air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Un air de vie.